これからみんなでめちゃくちゃ踊って騒ごう騒ごう。
ヘッベンガ
レゲサワ。
Une émission de Raphaël Antoven avec Paola Reymann.
À la réalisation, François Connac.
Et à la lecture aujourd'hui de Nipodalides. C'est la suite, et non la fin car il n'y en a pas ce dimanche, de notre voyage dans le voyage, notre voyage au bout de la nuit. Nos tribulations dans un monde affreux, sale, violent, mais percé et comme embelli de temps en temps, d'une éclaircie, d'un sourire, voire d'un beau geste chez celui qu'on n'en croyait pas capable. Après la guerre et l'Afrique où nous avons à peine posé les pieds, c'est d'Amérique que nous allons parler aujourd'hui. L'Amérique, l'Amérique, c'est-à-dire New York, la ville la plus tonique du monde, qui voit débarquer un beau jour le galérien qui, tel un Rastignac nihiliste, regarde ses hautes tours et lui dit à mots couverts « À nous deux maintenant ».
Bonjour Raphaël.
Bonjour Paola.
Et nous voici seuls, dans l'immensité formidable et le formidable néant, seuls en présence de la mort. Nous avons perdu l'illusion qui nous faisait vivre, la nouvelle naît tout juste. Et je l'avoue, j'aurais bien du mal à la définir. Céline n'essaie même pas, étant plus sage que moi et plus honnête. Tel Villon, tel Shakespeare, il se laisse traîner en tout lieu par la hantise de la mort. De là ces terribles accents, cette obscénité, cette violence, cette allure apocalyptique. Il est plein de la mort comme toutes les grandes âmes. Et le goût lui en monte aux lèvres, dans le vomissement et le sanglot. Comme toutes les grandes âmes, Pascal y compris, n'est-ce pas? Il ne peut croire à l'immortalité. Son pessimisme transcendant le rejette sur le vrai monde, dont l'horreur le renvoie à la mort, toujours à la mort. C'est ainsi que définit le voyage au bout de la nuit Élie Faure dans sa sublime critique, et j'ajouterais que Bardamu avait son gouffre avec lui se mouvant, d'Afrique en Amérique, de l'Infanta Combita au Los Calvin, rien n'y fait. Son pessimisme rieur, comme le crâne de Yorick, le suit partout.
Non, Bardamu avait son gouffre avec lui se mouvant. Vous citez Baudelaire citant Pascal. Vous assurez, Paola, c'est bien écrit.
C'est la critique d'Élie Faure qui m'a poussé à le faire.
Et où se trouve cette critique dans son histoire de l'art?
Non, je...
Non, ça m'étonnerait d'ailleurs.
En fait, j'ai trouvé dans les cahiers de Lerne, mais ça doit se trouver dans... Ça a dû paraître dans un journal.
C'est magnifique.
Pour une surprise, c'en fut une. À travers la brume, c'était tellement étonnant ce qu'on découvrait soudain que nous nous refusâmes d'abord à y croire. Et puis tout de même, quand nous fûmes en plein devant les choses, tout galérien qu'on était, on s'est mis à bien rigoler en voyant ça, droit devant nous. Figurez-vous qu'elle était debout leur ville, absolument droite. New York, c'est une ville debout. On en avait déjà vu, nous, des villes, bien sûr, et des belles encore, et des ports, et des fameux, même. Mais chez nous, n'est-ce pas, elles sont couchées, les villes, au bord de la mer ou sur les fleuves. Elles s'allongent sur le paysage, elles attendent le voyageur, tandis que celle-là, l'américaine, elle ne se pâmait pas, non. Elle se tenait bien raide, là, pas baisante du tout, raide à faire peur.
Vraiment pas la ville européenne érotique comme était venue la chercher Céline.
Céline ou Bardamu, oui. Oui, oui, en galère en plus. Hein. Il est venu en ramant jusque-là. Oui. Il a traversé l'Atlantique à la rame.
C'est pas le
Bardamu,
conquérant européen.
Non, c'est pas le conquérant européen qui va fertiliser une terre inconnue. C'est le petit européen qui découvre, en rencontrant le Nouveau Monde, que le Nouveau Monde est beaucoup plus vaste que le sien. Il est exactement, d'ailleurs, dans la situation dans laquelle se trouve aujourd'hui un Français imbu de sa grandeur défunte, qui arrive à Shanghai, par exemple, et qui découvre une ville où on construit un immeuble par jour ou par semaine, et qui s'aperçoit de sa propre petitesse et qui découvre, ne l'en déplaise, que son pays n'est plus qu'un centième du monde alors qu'il se prend pour son centre. Ce discours d'une antique grandeur devenue petitesse, cette espèce de révérence de l'antique grandeur devant une grandeur moderne, est un discours que Bardamu, me semble-t-il, est le premier à tenir quand il arrive à New York et qu'il se trouve, comme il dit...
En plein dedans ?
En plein devant.
Devant ?
C'est pas pareil. En plein devant les choses. Il dit, quand nous fûmes en plein devant les choses, tout galérien qu'on était, on s'est mis à bien rigoler en voyant ça, droit devant nous. Je voudrais juste remarquer une chose, j'ignore, nos auditeurs sont plus savants que nous, en tout cas certains d'entre eux, j'ignore s'il existe une formule de grammaire, de syntaxe, un nom, pour désigner la figure de style qui consiste à accoler l'adjectif ou l'adverbe ou l'expression, non pas à l'expression, le geste ou l'objet qu'il qualifie, objectivement, mais à l'expression, le geste ou l'objet qui les précède. Je m'explique. Quand quelqu'un dit « nous fûmes en plein devant les choses », on peut entendre « nous fûmes devant les choses pleines ». Ce sont les choses qui sont pleines. Plein devrait être accolé aux choses. Et ce qu'il dit des choses, ce qu'il dit des immeubles, ce qu'il dit de l'urbanisme à New York, semble avérer cette objective interprétation. Sauf que ce n'est pas ce que la grammaire dit. On retrouvait, vous savez, la même ambivalence dans le voyage, au moment où il dit « les soldats leur pinçaient énormément les fesses ». Qui pouvait vouloir dire à la fois qu'il les pinçait beaucoup, les fesses, mais que surtout il pinçait des fesses énormes. Et cet effet de style qu'on trouve chez Céline, cette espèce de brouillage, lui permet de dire deux choses en une. Il fait servir le même mot, la même expression, en plein, énormément, en le mettant dans cet endroit bâtard de la phrase, dans cette espèce de milieu indécis de la phrase, il fait servir la même expression aux deux morceaux de la phrase. Celui auquel la grammaire la colle, donc pincer énormément, bien, et celui auquel le sens lui impose d'être accolé, des fesses, énorme. Et du coup, le résultat, c'est qu'on a une sorte d'expansion du sens, un brouillage dans la phrase, un effet de brume, en fait, comparable à la brume new-yorkaise, la brume matinale d'un bateau qui arrive et qui regarde et qui voit ce qui se passe, comme le matin du monde. Dire en plein devant les choses, c'est à la fois dire devant les choses pleines, massives, imposantes, volumineuses, gigantesques, présentes, mais c'est aussi être soi-même de plein pied face au monde, n'avoir aucune possibilité de regarder ailleurs. Et c'est vraiment intéressant parce que la grammaire assigne un mot à résidence d'un côté de la phrase, mais la matière, le sens, lui, accole un mot à un autre endroit. Et le résultat est merveilleux. Le résultat est merveilleux parce que pour peu qu'on décrypte l'image, qu'on explore l'image que cette expression nous met sous les yeux, eh ben, on ne sait plus vraiment ce qu'on voit et on voit tout à la fois. On voit des individus qui sont de plein pied devant les tours et on voit des tours qui sont pleines devant des individus minuscules qui arrivent pour les voir. C'est la même chose à la fin du paragraphe quand il dit « on s'était mis à bien rigoler en voyant ça ». Droit devant nous, qui est droit? Est-ce que c'est les tours parce qu'elles sont raides ou bien la ville parce qu'elle est en face? Eh ben, c'est l'un et l'autre. Et il y a dans ce livre, comme ça, par la disposition des mots, une sorte de magie, à mon avis, irréductible du sens, qui trouble la lecture, mais à la façon dont, comme Apollinaire, parlant de la tour Eiffel, « Bergère, ô tour Eiffel, le troupeau des ponts bêle ce matin. On voit simultanément des moutons qui bêlent et des klaxons de voitures, une modernité triomphante et le souvenir d'un monde rural. On voit tout ça en même temps. » Et la précision littéraire est une précision qui se donne comme évasive. Elle se donne comme un brouillage des perceptions objectives au profit d'une intuition qui est une oscillation en plein devant les choses. Bon, ben, c'est nous qui sommes de plein pied, c'est les choses qui sont pleines et c'est indécis et c'est tant mieux.
Alors, après cette entrée syntaxique en matière, j'aimerais juste revenir sur cette arrivée à New York. On peut penser à d'autres arrivées d'Européens à New York comme ça sur le bateau, par exemple Karl Rossmann dans L'Amérique de Kafka, qui est un peu dans la même situation, qui part parce que de quelque sorte il est banni d'Europe parce qu'il a fauté avec la servante, et du coup il arrive et il est dans cette même situation de miséreux qui arrive...
Plus encore, c'est une expérience de l'infiniment grand. Ah, c'est une expérience de l'infiniment grand, comparable à celle que fait le petit Pip dans Moby Dick, pris entre deux infinis quand les baleiniers le jettent à l'eau parce qu'ils n'en peuvent plus de ces conneries sur le pont du navire, le jettent à l'eau et l'abandonnent pendant 24 heures et qu'il a sous les pieds le grand pédalier de l'existence puisqu'il est obligé de pédaler avec les jambes pour ne pas couler. Et dans le même temps, il a sous les yeux une immensité absolue et la conscience de sa petitesse. On est dans une expérience métaphysique. Ça que je veux dire, c'est qu'on est au-delà... parce qu'on aurait pu citer, pour le coup, je le cite parce que c'est un texte que j'ai lu, l'arrivée à New York décrite par Paul Morand dans ses voyages, qui est une chose extraordinaire. Sauf que le spectateur était d'une certaine façon dilué dans son spectacle. Bon, il est au service de cette brume, de ce paysage somptueux, de cette entrée, je ne l'ai pas sous la main là, mais c'est vraiment très très beau et très 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 bien écrit. Mais plus que tout cela, je crois qu'on a une expérience métaphysique. Je veux dire, il faut faire droit au sentiment qu'inspire l'énergie new-yorkaise, américaine, les autorités américaines, comme dit Céline, qui emploie l'adjectif américain à très bon escient tout le temps. L'autorité américaine, la situation américaine, enfin, il l'emploie. Bon, là encore, on ne sait pas trop ce qu'il veut dire, mais on comprend parfaitement. Il faut faire droit au sentiment qu'inspire l'énergie de New York à une grande fatigue, comme celle de Bardamu. En fait, Bardamu, c'est un champion de la fatigue. Il est né fatigué, il est né pessimiste. Il a sous les yeux, ce qu'il a sous les yeux lui semble irréfutable en permanence, donc c'est un pessimisme vraiment élaboré, étayé par le réel. Le réel n'est pas à voir en preuve qu'on a raison d'être pessimiste. Et c'est ce pessimisme magnifique qui vaut à Bardamu, je crois, une sorte de respect, en fait, pour New York. Parce que c'est le respect qu'on a comme quand on reconnaît son ennemi. Qu'est-ce que c'est que New York, Paola? C'est la plus belle forme de l'optimisme. C'est l'incarnation de l'optimisme. C'est un adversaire redoutable pour le lucide Bardamu. Moi, c'est comme ça que j'ai toujours lu ce chapitre. À lire le chapitre du voyage au bout de la nuit sur New York, on se dit qu'il s'agit de l'immersion, de l'intégration, de l'incorporation, de l'avalement d'un être minuscule dans le ventre, ou par le ventre, d'une grande cité. Mais en fait, je crois qu'il s'agit davantage de la confrontation quasiment à armes égales entre ces deux formes de lucidité que sont d'un côté l'optimisme triomphant d'un pays qui vérifie que l'effort est payant, et de l'autre côté, un pays naissant, un nouveau dragon de l'époque, et de l'autre côté, le pessimisme absolu d'un gentilâge qui trouve enfin dans cette ville non plus la preuve de ce qu'il pense, mais pour une fois, un adversaire à sa mesure, à la hauteur de sa lucidité.
Vous dites à armes égales. On peut voir ça, on peut voir justement que le pessimisme de Bardamu n'est pas impotent face à New York, c'est qu'il contamine, les lieux où se promène Bardamu. Par exemple, lorsqu'il rentre dans ce sort de fast-food, restaurant un peu miteux, c'est en rentrant dedans qu'il le rend laid, qu'il le rend glacial et...
On n'échappe pas au commerce américain. À travers les éblouissements de ces brasiers et cette contrainte, j'apercevais malgré tout les allées et venues dans nos environs immédiats d'une très gentille serveuse. Et je décidai de ne pas perdre un seul de ses jolis gestes. Quand vint mon tour d'avoir mon couvert échangé par ses soins, je pris bonne note de la forme imprévue de ses yeux, dont l'angle externe était bien plus aigu, ascendant, que de ceux des femmes de chez nous. Les paupières ondulaient aussi très légèrement vers le sourcil, du côté des tempes. De la cruauté, en somme, mais juste ce qu'il faut. Une cruauté qu'on peut embrasser. Insidieuse amertume comme celle des vins du Rhin, agréable malgré soi. Quand elle fut à ma proximité, je me mis à lui faire des petits signes d'intelligence, si je puis dire, à la serveuse. Comme si je la reconnaissais. Elle m'examina sans aucune complaisance, comme une bête, mais curieusement tout de même. Voici bien, me disais-je, la première américaine qui se trouve forcée de me regarder. Ayant achevé la tarte lumineuse, il a bien fallu laisser ma place à quelqu'un d'autre. Alors un petit tuban, au lieu de suivre le chemin bien net qui menait vers la sortie, tout droit, j'ai pris de l'audace, et laissant de côté l'homme à la caisse qui nous attendait tous avec notre pognon, je me suis dirigé vers elle, la blonde, me détachant tout à fait insolite parmi les flots de la lumière disciplinée. Les 25 serveuses à leur poste derrière les choses mijotantes me firent signe toutes en même temps que je me trompais de chemin, que je m'égarais. Je perçus un grand remous de formes dans la vitrine des gens en attente, et ceux qui devaient se mettre à bouffer derrière moi en hésitèrent à s'asseoir. Je venais de rompre l'ordre des choses. Tout le monde autour s'étonnait hautement. « C'est encore un étranger au moins », ils disaient. Mais j'avais mon idée, qui valait ce qu'elle valait. Je ne voulais plus lâcher la belle de mon service. Elle m'avait regardé, la mignonne. Tant pis pour elle. J'en avais assez d'être seul, plus de rêve, de la sympathie, du contact. « Mademoiselle, vous me connaissez fort peu, mais moi déjà je vous aime. Voulez-vous que nous nous marions ?» C'est de cette manière que je l'interpellais, la plus honnête. Sa réponse ne me parvint jamais, car un géant de garde, tout vêtu de blanc lui aussi, survint à ce moment précis et me poussa dehors, justement, simplement, sans injure, ni brutalité, dans la nuit, comme un chien qui vient de s'oublier. Tout cela se déroulait régulièrement, je n'avais rien à dire. Je remontais vers le Loft Calvin.
Évidemment, en entendant ce passage, on pense aux peintures de Hopper, mais c'est...
Évidemment, comme vous y allez, voyons, comme vous y allez.
Évidemment, parce que...
Évidemment, pour ceux qui ont déjà vu les tableaux de Hopper, qui est un génie du peintre de l'ennui, effectivement, il y a quelque chose de cet ordre.
Oui, oui, mais évidemment, quand je disais ça, c'est parce que la peinture la plus célèbre de Hopper va très très bien avec ce passage, mais on peut aussi penser aux scènes, c'est un peu plus audacieux comme pont peut-être, mais aux scènes de snack dans les films de David Lynch comme Twin Peaks. Il y a quelque chose comme ça avec ce dernier passage du garde qui a cette brutalité très cordiale.
Douce brutalité, cette évidence, c'est-à-dire le garde est tellement sûr de sa force qu'il n'a aucun besoin d'être brutal avec Bardamus et c'est gentiment qu'il le met... Allez, comme un chien qui vient de s'oublier, très gentiment, très très doucement, on lui en veut pas. Or, quel est le crime de Bardamus? Qu'est-ce qui lui vaut d'être à la fois éjecté et dans le même temps indifférencié, rendu à l'indifférence? Eh bien, c'est qu'il est sorti du rang. Il s'est conduit, il s'est dit lui-même, me détachant, tout à fait insolite. Bardamus s'est rendu insolite, c'est-à-dire qu'il s'est rappelé à l'insolite de sa condition, en fait. Bardamus a fait profession d'insolitisme, si j'ose dire. Il s'est présenté comme insolite, c'est-à-dire il s'est présenté comme ce qu'il est, comme ce que toute chose est, un phénomène singulier à l'intérieur d'une grande entreprise de conformation des individus ou de mise en conformité des individus. Et il s'est présenté comme un phénomène insolite. Or, et c'est là, vous voyez qu'on est vraiment dans un duel entre Bardamus et New York, la tentative de l'insolite de Englishman in New York, Lost in Translation, ce sentiment qu'on peut avoir d'être insolite dans une ville complètement étrangère, ce sentiment d'être insolite, il est non pas battu en brèche par la ville, il est réduit à néant. Il est réduit à néant, c'est-à-dire qu'on le fait taire, on fait taire l'insolite dans cette ville naissante qui n'a pas du tout le temps de s'encombrer des arguties métaphysiques de Bardamus. Et le passage qu'on vient d'entendre, admirablement lu par Denis Podalydès, qui a vraiment, il faut le rappeler, lu l'intégrale du Voyage au bout de la nuit, c'est magnifique. Le passage qu'on vient d'entendre est un passage qui, vraiment, c'est une des façons que l'on a de décrire cet affrontement métaphysique entre New York, c'est-à-dire la métaphysique, et Bardamus. Et il faut vraiment qu'on revienne là-dessus. Avant d'examiner les textes, de revenir un tout petit peu en amont sur les textes qui le disent, je voudrais juste attirer votre attention, Paola, sur le nom de l'hôtel.
Mais évidemment, oui.
Le Laugh Calvin. C'est Calvin qui se marre. Je veux dire, on ne peut pas faire mieux dans le genre. Il n'y a pas mieux comme façon de se... à la fois de se moquer de l'homme européen par excellence. Calvin, c'est l'Europe. Voilà, c'est l'Europe. C'est l'Europe en son émergence. C'est l'Europe en son émergence et c'est l'apprentissage par l'Europe de l'autonomie, c'est-à-dire d'une loi qu'on se forge soi-même, une façon de renoncer à l'hétéronomie. C'est la naissance de l'Europe, que voulez-vous. C'est Calvin, c'est très important. Et là, Calvin se bidonne. Évidemment, on sait bien que le rire est le pire ennemi des religions. Et dans ce pays si puissant, partagé entre l'absolu céleste et l'immondice et le communisme joyeux du caca dont on va reparler fatalement, dans ce pays-là, il n'est pas innocent. Évidemment que l'hôtel où Bardamus se trouve, un hôtel bien achalandé d'ailleurs, et dont le mot du directeur le plonge dans la mélancolie, il n'est pas innocent que cet hôtel s'appelle le Calvin qui se marre, parce qu'effectivement, ou le Calvin dont on se moque, c'est à peu près pareil ici. Et en un sens, tout est dit.
Oui, il y a une part belle qui est faite au rire dans ce passage, dans l'ensemble du voyage, mais dans le passage sur New York, c'est assez prégnant. Dès le début, on ne l'a pas entendu parce qu'on s'est arrêté juste avant, mais quelle est la première réaction des galériens quand ils arrivent à New York?
Rigolé comme des cornichons. On en a rigolé comme des cornichons. Ça fait drôle, forcément, une ville bâtie en raideur. Mais on en pouvait rigoler, nous, du spectacle qu'à partir du coup. À cause du froid qui venait du large pendant ce temps-là, à travers une grosse brume grise et rose et rapide et piquante à l'assaut de nos pantalons et des crevasses de cette muraille, les rues de la ville où les nuages s'engouffraient aussi à la charge du vent. C'est bizarre qu'ils disent « on ne peut rigoler qu'à partir du cou », comme si on rigolait avec autre chose, au fond, comme si on rigolait avec autre chose que le visage. L'effet de New York sur le voyageur qui arrive et qui découvre cet endroit, c'est une grosse rigolade, mais qui lui coupe la tête. C'est la tête qui rigole et le reste du corps ne suit pas. On est déjà dans une bipartition, dans une bipartition métaphysique qui renvoie d'ailleurs à la description de la ville elle-même. Regardez.
Comme si j'avais su où j'allais, j'ai eu l'air de choisir encore et j'ai changé de route. J'ai pris sur ma droite une autre rue, mieux éclairée. Broadway, qu'elle s'appelait. Le nom, je l'ai lu sur une plaque. Bien au-dessus des derniers étages, en haut, restait du jour, avec des mouettes et des morceaux du ciel. Nous, on avançait dans la lueur d'en bas, malade comme celle de la forêt, et si grise que la rue en était pleine comme un gros mélange de coton sale. C'était comme une plaie triste, la rue, qui n'en finissait plus, avec nous, au fond, nous autres, d'un bord à l'autre, d'une peine à l'autre, vers le bout qu'on ne voit jamais, le bout de toutes les rues du monde.
Le monde est séparé entre ces morceaux de ciel que les tours découpent. Et cette rue blafarde, où les miteux de la terre viennent chercher de l'art, viennent chercher fortune, viennent capter un peu d'or, ou viennent espérer un peu d'or, vainement bien sûr, mais où les pauvres de toute la terre sont confrontés à la difficulté de la condition humaine, à savoir qu'on ne rejoint pas l'horizon quand on marche droit devant soi. C'est pas de cette façon qu'on rejoint l'horizon, de sorte qu'on peut arpenter Broadway à l'infini, le bout de toutes les rues du monde. Broadway nous fera signe vers le bout de toutes les rues du monde, mais ce bout-là, c'est-à-dire le ciel en vérité, évidemment, on n'y parvient pas. Donc il y a véritablement une rupture entre deux univers. D'emblée, quand il décrit New York, il oppose les deux univers. C'est une ville séparée entre l'ambition sublime et la réalité blafarde. D'ailleurs, quand Bardamu veut entrer à New York, que lui disent ses compagnons de galère ? T'as pas des bons goûts pour un pouilleux, c'est ta fièvre qui te rend dingo. T'en reviendras de ton Amérique et dans un état pire que nous. Et un peu plus loin, il dit « On va te renseigner tout de suite, nous autres, sur ce que c'est que les Américains. C'est tout millionnaire, donc le ciel, ou tout charogne, donc la rue. Il n'y a pas de milieu. » Toi, tu les verras sûrement pas, les millionnaires, dans l'état que t'arrives, mais pour la charogne, tu peux compter qu'ils vont t'en faire bouffer. Là, tu peux être tranquille, et pas plus tard que tout de suite. Voilà l'objection. Ces compagnons de galère, ces galériens qui se battent et se pénètrent à tour de rôle, comme Bardamu les décrit, ces galériens, ces enculés, comme il dit, puisque c'est l'expression qu'il emploie, ceux qui n'ont qu'un petit four entre les jambes et encore bien mou, ces galériens... Ils lui prédisent évidemment ce qui va lui arriver, c'est-à-dire voilà un homme jeté entre les deux infinis de la misère et du ciel, de la fortune et de l'opulence, de la même manière qu'il confrontera l'expérience métaphysique des femmes sublimes qu'il croise dans la rue, des prostituées extraordinaires.
Dans le hall du
Love Calvin, et ailleurs aussi d'ailleurs, et de cette caverne fécale où travaillent des milliers de travailleurs rectaux, comme il dit, en riant de façon paillarde. De là l'expression, je crois, qui revient à deux reprises dans le chapitre sur New York, de vertige à l'envers. Bardamu dit « J'avais le vertige à l'envers devant toutes ces fenêtres trop nombreuses et trop pareilles. » Et un peu plus loin, il parle de ces maisons en vertige. Et c'est vrai que c'est une impression qu'on a à New York. Ceux de nos auditeurs qui ont fait cette expérience savent que quand on regarde une tour d'en bas, même quand elle est raide, complètement raide, c'est-à-dire même quand elle n'est pas incurvée, puisque maintenant il y a des tours incurvées comme les télés, quand on la voit toute raide, on a l'impression qu'elle se penche sur nous. Quand on la regarde d'en bas, elle est si haute, si large, si puissante, qu'on a l'impression qu'elle se penche sur nous, qu'elle nous écrase. Toutes les tours vues d'en bas ressemblent aux tours de Pise avec nous en dessous. Aux tours de Pise avec un autre format, parce que la tour de Pise, c'est un mouchoir de poche à côté. Toutes les tours ressemblent à ça. Et de là, ce vertige à l'envers qui correspond aux effets produits par une ville où il est indifférent, où il est renvoyé à sa petitesse, sur l'âme de cette conscience en éveil, de cette inquiétude mobile qu'est Bardamu, qui supporte pas la conscience tranquille, la sérénité, la puissance et le gigantisme de ce lieu étonnant.
France Culture, le gai savoir.
Raphaël Antoven.
Il y a tout de même, Raphaël, un point où... On pourrait dire un point où New York et Bardamu se rencontrent, c'est la salle obscure, c'est le cinéma.
Oui.
C'est le seul moment où Bardamu se sent à sa place à New York et il appelle ça ce formidable délire d'âme ou quelque chose comme ça en parlant du film.
Au passage d'ailleurs, on va entendre le texte, puisqu'évidemment cette émission, enfin ce qu'on peut dire, nos digressions sur le voyage au bout de la nuit sont aussi des prétextes pour en donner le texte à entendre. Au-delà de ça, rappelons une chose, c'est qu'il y a deux expériences tout à fait pétrifiantes dans son arrivée et son expérience new-yorkaise. C'est la caverne fécale et la salle de cinéma. Or, ce sont deux versions au fond de la caverne de Platon. Parlons du cinéma. Le dispositif du cinéma, Paola, est exactement, d'ailleurs c'est Jean-François Mattei qui remarque ça dans ses études sur Platon, le dispositif d'une salle de cinéma est exactement le dispositif de la caverne de Platon, où vous avez un flot de lumière, puis intercalé entre ce flot de lumière et la paroi sur laquelle les ombres se reflètent, quelques individus qui prennent leurs propres ombres pour la réalité. Ce qui pose toute une série de problèmes chez Platon, notamment la question de savoir s'il y a certaines ombres dont le dessin est mieux découpé que d'autres. En d'autres termes, s'il existe chez Platon différents degrés dans l'illusion. Est-ce qu'on peut plus ou moins se tromper? Est-ce qu'une illusion mieux découpée, est-ce qu'une ombre mieux découpée ne renseigne pas davantage sur la réalité qu'elle dissimule qu'une ombre floue, qu'une ombre trouble à la façon dont une main recouvre une lampe recouvrant une ampoule, par exemple, crée de l'obscurité dans toute la pièce? Est-ce qu'il n'y a pas plus d'informations là-dessus? Mais ce qui est important, c'est que Bardamu, entrant dans le cinéma, fait une expérience magnifique, schopenhauerienne, platonicienne, enfin qui serait platonicienne ou schopenhauerienne si elle éteignait le désir en lui. Or, pas du tout.
Il y a de la concupiscence aussi.
C'est ça. Et ça, c'est le coup de génie de Céline. C'est qu'en général, dans l'histoire de l'esthétique, et dans l'histoire de l'art, dans l'histoire de la pensée, vous avez, par rapport à la révélation, la surnaturelle révélation esthétique, deux comportements possibles. Comportement numéro un, la beauté me débarrasse de mon désir. Expérience schopenhauerienne, nirvana, ataraxie. Devant la beauté, je suis peinard. Je suis tranquille, je suis dispensé de désirer, je peux enfin, paradoxe des paradoxes, désirer ne plus désirer. Voilà. Je suis dans une forme de sérénité, je suis rendu à une sérénité native, je suis dispensé des questions qui me tourmentent par la
mort.
Beauté. Petite mort. Oui, c'est une petite mort sans orgasme. Justement, parce qu'on ne jouit pas, parce que si on jouit, on veut rejouir. Donc ce n'est pas une jouissance. Ou alors c'est la jouissance au sens que Schopenhauer donne du bonheur. C'est-à-dire, le bonheur, dit Schopenhauer, enfin laisse entendre Schopenhauer, c'est le caillou qu'on n'a plus dans la chaussure. C'est-à-dire c'est la suppression d'une douleur. Donc, est-ce qu'on peut parler de jouissance à la façon dont on jouit quand on boit un verre d'eau, quand on a soif? Oui, en un sens, non, en un autre. On ne jouit pas de l'eau, on jouit du fait que l'eau vient nous désaltérer. Là, on jouit du fait que l'expérience esthétique nous débarrasse du désir qui nous tourmente, qui nous ennuie, qui nous fait bander et qui par là même nous confronte à notre solitude. Donc, première tradition. Deuxième tradition, plus nietzschéenne que schopenhauerienne en fait, puisque l'alternative elle est là. Devant la beauté, on est dans l'affirmation du désir, justement. On est dans l'affirmation résolue du désir. On est dans un moment de désir intense. Et bien, avec Bardamu, c'est les deux à la fois. C'est les deux à la fois. On va entendre le passage, écoutez.
Moi aussi, j'ai été me traîner vers les lumières, un cinéma, et puis un autre à côté, et puis encore un autre, et tout au long de la rue, comme ça. Nous perdions de gros morceaux de foule devant chacun d'eux. J'en ai choisi, moi, un de cinéma où il y avait des femmes sur les photos en combinaison. Et quelles cuisses, messieurs. Lourdes, amples, précises. Et puis des mignonnes têtes par là-dessus, comme dessinées par contraste, délicates, fragiles, au crayon, sans retouche à faire, parfaites. Pas une négligence, pas une bavure, parfaites, je vous le dis. Mignonnes, mais fermes et concises en même temps. Tout ce que la vie peut épanouir de plus périlleux, de véritables imprudences de beauté, ces indiscrétions sur les divines et profondes harmonies possibles. Il faisait dans ce cinéma bon, doux et chaud, de volumineux orgues tout à fait tendres comme dans une basilique, mais alors qu'ils se réchauffaient, des orgues comme des cuisses. Pas un moment de perdu. On plonge en plein dans le pardon tiède. On n'aurait eu qu'à se laisser aller pour penser que le monde, peut-être, venait enfin de se convertir à l'indulgence. On y était soi, presque déjà. Alors les rêves montent dans la nuit pour aller s'embraser au mirage de la lumière qui bouge. Ce n'est pas tout à fait vivant ce qui se passe sur les écrans. Il reste dedans une grande place trouble pour les pauvres, pour les rêves et pour les morts. Il faut se dépêcher de s'engaver de rêves pour traverser la vie qui vous attend dehors, sortie du cinéma, durer quelques jours de plus à travers cette atrocité des choses et des hommes. On choisit parmi les rêves ce qui vous réchauffe le mieux l'âme. Pour moi, c'était... Je l'avoue, les cochons. Faut pas être fier, on emporte d'un miracle ce qu'on peut en retenir. Une blonde qui possédait des nichons et une nuque inoubliable a cru bon de venir rompre le silence de l'écran par une chanson où il était question de sa solitude. On en aurait pleuré avec elle.
You'll try in vain, you can't explain the charming, alarming blonde women. They fascinate. they captivate. Beware the amazing blonde women. Be careful when you meet a sweet blonde stranger. You may not know it, but you are greeting danger. You'll try in vain, you can't explain the charming, alarming blonde women.
Pour en revenir à ce que vous disiez au début de l'émission sur le bipartisme entre le cou et le reste du corps quand Bardamu et ses amis galériens arrivent à New York.
Oui, Cathy, quand il rit au-dessus du cou,
voilà.
Comme si on riait avec les fesses, les jambes, les seins ou le ventre.
Ce qui est vrai. On peut rire avec le ventre.
Mais oui.
Mais on pourrait en retrouver un écho dans ce passage sur le cinéma par rapport aux affiches de cinéma où il distingue les cuisses amples, généreuses en somme, et les mignonnes petites têtes. Et ce qui fait un corps assez étrange quand on y pense.
Vous avez tout à fait raison, vous avez tout à fait raison. Elles ont le visage absolument délicat. Vous savez, le visage est en général la dernière victime de la prise de poids. Bien souvent, quelqu'un qui prend du poids conserve quelque chose d'inaltéré ou d'inentamé ou d'encore imperceptible dans son visage. Ça prend plus de temps sur le visage. Le visage est en général le préservé de ce genre d'inconvénients existentiels. Et c'est à cette expérience que Bardamu nous renvoie. Mais au-delà de cette différence entre le corps et la tête, c'est pas le corps et l'âme, hein, c'est le corps et la tête. Et au-delà de cette différence, il faut faire droit à ce que Bardamu ou Céline dit des cuisses. Dans tout ce moment, vous avez par exemple quand
ils sont en quarantaine, c'est ça?
Ouais, quand ils sont en quarantaine. Alors au début, il faut resituer les choses pour nos auditeurs. Donc Bardamu arrive à New York sur l'Infanta Combita, qui est une galère. Donc il y vient en galérien, il y vient en ramant. Les gens qui ont traversé l'Atlantique à la rame n'ont finalement rien inventé. Bardamu l'a fait avant eux.
Il y a quelque chose de lascif déjà dans le nom
de l'Infanta Combita. Je laisse à vos oreilles le soin d'entendre ce qu'elles veulent. Le fait est que, arrivés là, ils sont mis en quarantaine. Et puis, pendant sa quarantaine, donc, il finit par s'évader. Il se fait récupérer par les autorités américaines en perdant connaissance. L'expression n'est pas anodine non plus, hein. Le mieux était de perdre connaissance, ce qui m'arriva. Il faut entendre perdre connaissance, c'est-à-dire abjurer toute forme de connaissance au profit de l'expérience nouvelle qu'il se promet de vivre dans cette nouvelle ville, dans cette ville nouvelle à tous égards. Et il arrive et il est, à ce moment-là, identifié par le major, le surgeon général, beau nom pour un poisson, Mischief. Et alors, monsieur le major Mischief, le surgeon général, lui dit, il lui vend un truc extraordinaire, il lui vend le fait qu'il est expert en matière de comptage de puces. Donc, il sait compter les puces. Donc, il dit, et c'est ce qui est une métaphore de la littérature elle-même, il dit « Tout ce qui voyage de furtif et de piqueur sur l'humanité en déroute me passait par les ongles. » Il sait compter les puces, il sait les relever, il fait des statistiques avec les puces, il y voit un enjeu de civilisation. Bon. C'est très drôle, mais surtout, il est content de faire ça parce que, dit-il, la fille du major Mischief, je le note encore, glorieuse dans sa 15e année, venait après 5 heures jouer du tennis, vêtue de jupes extrêmement courtes devant la fenêtre de notre bureau.
En fait de jambes, j'ai rarement vu mieux. Encore un peu masculine et cependant déjà plus délicate. Une beauté de chair en éclosion. Une véritable provocation au bonheur. À crier de joie en promesse. De jeunes enseignes du détachement de la Quittéguerre.
Etc, etc. Mais les cuisses sont déjà présentes et on les retrouve ensuite quand il décrit les jeunes femmes plongées dans la pénombre de l'hôtel en de profonds fauteuils, les prostituées de l'hôtel, les déesses racoleuses, celles qu'il appelle les trop jolies femmes de l'entrée. Enfin, tous les passages qui décrivent la beauté de son vestibule tantalien, puisque c'est un monde de tentation auquel il n'a pas accès parce que c'est un miteux. Cette beauté altière qui le méprise et qui le maîtrise s'exprime d'abord par les cuisses. Et puis, comme il n'a pas accès aux cuisses, ben il lève le regard et il voit le visage qui est encore plus loin d'accès. Sauf que, il en a bizarrement une sorte de conscience plus, non pas plus précise, mais il entame des dialogues avec des visages. Comme le passage qu'on a entendu au début, il essaie de parler avec la fille, la blonde, dont les pommettes saillantes l'excitent, et du coup il la demande en mariage. Le visage, c'est son interlocuteur, et les cuisses, c'est la première chose à laquelle il a accès. Dans les deux cas, tout cela contribue à cette surnaturelle révélation esthétique, ce qu'il appelle cette surnaturelle révélation esthétique, le sentiment que c'est la, la Grèce qui recommence, attendez.
Je touchais au vif de mon pèlerinage. Et si je n'avais point souffert en même temps des continuels rappels de mon appétit, je me serais cru parvenu à l'un de ces moments de surnaturelle révélation esthétique. Les beautés que je découvrais, incessantes, m'eussent avec un peu de confiance et de confort ravi à ma condition trivialement humaine. Il ne me manquait qu'un sandwich, en somme, pour me croire en plein miracle. Mais comme il me manquait le sandwich. Quelle gracieuse souplesse, cependant. Quelle délicatesse incroyable. Quelle trouvaille d'harmonie, périlleuse nuance, réussie de tous les dangers, de toutes les promesses possibles de la figure et du corps parmi tant de blondes, ces brunes et ces tissiennes, et qu'il n'y en avait plus qu'il en venait encore. C'est peut-être, pensais-je, la Grèce qui recommence. J'arrive au bon moment. Elles me parurent d'autant mieux divines, ces apparitions, qu'elles ne semblaient point du tout s'apercevoir que j'existais, moi, là, à côté sur ce banc, tout gâteux, baveux d'admiration érotico-mystique, de quinine et aussi de faim, faut l'avouer. S'il était possible de sortir de sa peau, j'en serais sorti juste à ce moment-là, une fois pour toutes. Rien ne m'y retenait plus. Elle pouvait m'emmener, me sublimer, ces invraisemblables midinettes. Elle n'avait qu'un geste à faire, un mot à dire, et je passais à l'instant même et tout entier dans le monde du rêve. Mais sans doute avait-elle d'autres missions. Une heure, deux heures passèrent ainsi, dans la stupéfaction. Je n'espérais plus rien. Il y a les boyaux. Vous avez vu à la campagne chez nous jouer le tour aux cheminots? On bourre un vieux porte-monnaie avec les boyaux pourris d'un poulet. Eh bien, un homme, moi je vous le dis, c'est tout comme, en plus gros et mobile, et vorace, et puis dedans, un rêve.
On est en plein à nouveau dans ce détournement, cette perversion de la contemplation mystique schopenhauerienne.
Oui, perversion, contemplation, détournement et en même temps conciliation de cette de ce salut par la beauté, de cette sorte de sotériologie. C'est la sotériologie, c'est la doctrine du salut. Donc de cette sorte de sotériologie célinienne par la beauté qui l'énergise un peu. Qu'il énergise un peu, c'est-à-dire il se sent tout petit, il se sent minuscule devant ces prostituées extraordinaires qui, comme il n'a pas un rond, ne le regardent pas, donc voilà, c'est le supplice du miteux. Mais il a quand même du désir. À la fois, il n'espère plus rien, il est débarrassé de lui-même, il se sent sortir de sa propre peau, donc il y a vraiment tout le lexique de l'oubli de soi, de l'abandon, de la douleur d'exister, etc., etc., devant le spectacle de la beauté. Et dans le même temps, il souffre du rêve qui le porte, du rêve qui l'anime. Il continue d'en souffrir, ça continue de lui faire mal. C'est tout le paradoxe de Bardamu quand il parle de ces soldats qui vont mourir dans le silence de vérité. Au fond, l'alternative, c'est mourir ou mentir. Or, il n'a jamais pu mentir, Bardamu. Donc, il est condamné à souffrir, mourir, à vivre, à expérimenter l'abîme qui sépare son pessimisme de ce que la beauté ici semble lui indiquer. C'est vraiment une lutte à mort entre la beauté, le supplice esthétique du pauvre et la lucidité pessimiste de Bardamu. C'est vraiment une lutte à mort. D'ailleurs, il entre dans Manhattan, la capitale de l'art, comme on entre à l'église.
C'était le quartier précieux, qu'on m'a expliqué plus tard. Le quartier pour l'or, Manhattan. On y entre qu'à pied, comme à l'église. C'est le beau cœur en banque du monde d'aujourd'hui. Il y en a pourtant qui crachent par terre en passant. Faut être osé. C'est un quartier qu'en est rempli d'or, un vrai miracle. Et même qu'on peut l'entendre, le miracle, à travers les portes, avec son bruit de dollars qu'on froisse. Lui, toujours trop léger, le dollar. Un vrai Saint-Esprit, plus précieux que du sang.
Rien ne renseigne davantage sur l'émotion qu'un Européen éprouve en arrivant à Shanghai aujourd'hui que l'émotion de Bardamu, les premières pages de son arrivée à New York. Et, en un sens, le fait que ces émotions soient à peu près les mêmes avère la suprématie à venir de l'Empire chinois. En un sens, comme l'Amérique l'a emporté sur le XXe siècle, la Chine l'emportera sur le XXIe siècle. C'est une prédiction qu'on est presque fondé à faire dans la mesure où l'émotion qu'on éprouve quand on arrive en Chine est comparable à l'émotion que Bardamu éprouve en arrivant à New York. Mais là où Céline est encore plus visionnaire, je crois, visionnaire, où on peut s'en servir pour entrevoir ce qui nous attend, c'est que Raymond Aron, dans l'opium des intellectuels, avait fait ce geste tout à fait blasphématoire dans les années 50, de décrire le communisme comme une religion. C'est-à-dire que le communisme, c'est une religion qui se donne la religion pour ennemi. C'est une religion qui présente la religion comme l'opium du peuple. Sauf que c'est un dispositif totalement religieux qui est en place. C'est une église, le communisme. Et Aron avait eu ce coup de génie de repérer la structure religieuse derrière un discours hostile à la religion. Et par là même de montrer que le contenu d'un discours ne dispensait pas de sa forme. Que fait Céline ? Il fait pareil avec l'amour de l'or. Et il décrit l'amour de l'or comme une autre forme d'idolâtrie, comme une autre façon d'être religieux aussi. Et c'est aussi fort, sauf que les outils qu'ils emploient l'un et l'autre pour remarquer cette entrée en religion sont différents. Mais les deux grandes religions du XXe siècle, c'est-à-dire le communisme d'un côté et l'amour de l'or de l'autre, le goût de s'enrichir, le goût du confort, la passion de soi-même, ces deux grandes religions du XXe siècle, la religion totalitaire et la religion individualiste en un sens, ces deux modalités religieuses de l'existence sont décrites à merveille par le sociologue-philosophe Raymond Aron comme par l'écrivain Céline, dont le grand mérite est d'appartenir à cette frange particulière de la droite. C'est l'extrême droite qui n'est pas américanophobe. C'est l'extrême droite. Pourtant, il n'épargne pas la capitale dollar. Il n'épargne pas les Américains. Il n'épargne pas l'autorité américaine. Mais il n'est pas dans l'américanophobie. Il dit lui-même, hein, il en est féru de l'Amérique. Il y a quelque chose là de tout à fait singulier et de complètement passé de mode aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on aime Céline, en gros, on déteste les États-Unis. On tient les États-Unis pour le mal absolu, le grand Satan. C'est pire que... New York, c'est pire que Téhéran. Du point de vue de l'extrême droite, en France ou ailleurs aujourd'hui, New York, c'est l'enfer absolu. C'est le monde à la fois... Vous savez, c'est le discours américanophobe ou anti-américain a ceci de bancal qu'il est passe-partout. C'est-à-dire qu'on reproche aux États-Unis d'être à la fois raciste et cosmopolite, d'être libertaire et sécuritaire. C'est un discours qui mélange, qui amalgame des griefs en eux-mêmes contradictoires et qui le fait sans crainte, sans souci, sans scrupule. Et Céline permet, lui, de faire le tri là-dedans. Et puis surtout, il faut quand même s'en tenir là, l'Amérique, c'est encore cette confrontation avec la beauté. C'est la beauté de la modernité, c'est la beauté du cinéma, la beauté des femmes. Cette beauté insensée qui fait qu'il ne regarde pas ce qui se passe à ses pieds.
Pour en revenir un peu au récit, j'aimerais qu'on parle du moment de la petite victoire de Bardamu et du moment où enfin Bardamu réussit à fissurer l'optimisme américain. C'est quand même dans sa confrontation avec Lola, qui est la beauté qu'il était venu retrouver en Amérique, mais qui incarne cet optimisme aveugle.
La petite salope, comme il l'appelle, de Lola, celle qui s'est fait sa situation américaine, celle qui a fait fortune, qui était la maîtresse de Bardamu avant, qu'il va retrouver là-bas, celle qui fait ses petites affaires avec ses prostituées, etc. Bardamu va la voir pour lui taper de l'argent, tout simplement. Bon. Et elle le sait très bien, d'ailleurs. Et en fait, au bout d'un moment, pour se débarrasser de Lola, Lola apprend à Bardamu que sa mère a un cancer du foie. Il dit, mais j'ai pris les meilleurs médecins, ils vont la soigner, ils me l'ont promis. Et Bardamu lui dit, Lola, oh, je suis médecin moi aussi, hein, donc un cancer du foie, non. Moi aussi, pour du fric, je peux vous dire que je la guéris, mais ça marche pas, ça n'existe pas. Il dit, mais vous faites beaucoup de peine, Bardamu. Et en fait, c'est le choc de la lucidité à la fois médicale et doublée du nihilisme européen devant cette espèce d'optimisme à tout prix qui considère que même le cancer n'est qu'un obstacle qu'on peut résoudre à coups de dollars. Et Bardamu est celui qui, pour se faire prêter, donner du blé par Lola, en gros pour qu'il fiche le camp, pour qu'il déguerpisse, pour qu'il débarrasse le plancher, il se rend aussi odieux qu'il peut l'être à Lola, et il lui dit « Mais votre mère va mourir », et donc Lola finit par lui donner $100 pour se débarrasser de lui, pour ne plus entendre ces paroles atroces qui, en réalité, sont des paroles de vérité. Et donc, effectivement, à ce moment-là, Bardamu a une petite victoire, et d'ailleurs, ça le met de bonne humeur. Ça le met de bonne humeur parce qu'il a quand même un peu écrasé une Américaine. On retrouve un sentiment comparable, vous savez, dans le complexe de Portnoy de Philip Roth. À la toute fin du livre, Philip Roth, qui est Alexander Portnoy, le personnage du complexe de Portnoy, qui est un juif de la diaspora, c'est-à-dire un juif tortueux, compliqué, qui se moque de son propre nez. Vous avez 25 pages parfaitement antisémites dans le complexe de Portnoy sur le tarin du juif, sur le nez de juif, etc. Portnoy, qui est un Ashkénaz tordu de la tête, qui se complique l'existence, qui prend pas d'aspirine parce que ça guérit la migraine et qui passe sa vie à se masturber, rencontre à la fin du livre une Israélienne qui, elle, appartient à cette nouvelle génération de juifs qui se prennent pour des pionniers, qui veulent féconder la terre, qui se prennent pour les... c'est-à-dire de juifs non apatrides. Et en fait, il la regarde, elle est infiniment désirable, il a qu'une envie, c'est de la violer. Il a qu'une envie, c'est de la violer, c'est-à-dire de réduire cet enthousiasme à néant, cet enthousiasme où il ne retrouve rien de son propre judaïsme, au fond, de le réduire à néant. Et il y a quelque chose dans cette façon qu'a Bardamu d'humilier Lola, qui est de l'ordre de la vengeance. Alors, certains diront du vieux continent sur le nouveau continent, d'autres diront... de l'amertume sur l'enthousiasme, du pessimisme sur l'optimisme, ou bien tout simplement de la lucidité sur le fait de confondre le monde avec ce qu'on aimerait qu'il soit. Mais dans tous les cas de figure, effectivement, il y a là un choc de titan, un choc de géant dans le Voyage au bout de la nuit, dont le Voyage au bout de la nuit est en fait la fresque, la chronique.
France Culture, le Gai Savoir.
Raphaël Antoven.
Je vous sens pressé, Raphaël. Venons-en à la caverne fécale.
Mais oui, parce que ce qui est beau dans ce livre, vous vous souvenez dans le Tête-à-Tête que Thalès, comptant, calculant à l'œil la distance entre les étoiles, ne voit pas ce qui se passe à ses pieds et tombe dans une caverne, dans un puits. Ce qui fait rire la servante en lui disant « Voilà, vous, les philosophes, les mathématiciens, vous avez la tête dans les étoiles, nous, on a les pieds sur terre, et vous ne voyez pas ce qui se passe à vos pieds. Vous voyez, à la façon dont l'énarque peut, à vue d'œil, c'est une blague sur l'énarque, vous savez, compter le nombre de moutons qu'il y a dans le troupeau, sauf qu'il inclut les chiens dans le troupeau des moutons. Donc il peut effectivement, en gros, une grande maîtrise de l'abstraction et une inaptitude à assaisonner un plat, organiser une plaidoirie, poser un pied devant l'autre, bref, vivre dans la vie de tous les jours. Bon. Que fait Bardamu de cette histoire? Que fait Céline de cette histoire? Eh bien, il en fait ceci.
À droite de mon banc s'ouvrait précisément un trou, large, à même le trottoir, dans le genre du métro de chez nous. Ce trou me parut propice, vaste qu'il était, avec un escalier dedans tout en marbre rose. J'avais déjà vu bien des gens de la rue y disparaître et puis en ressortir. C'était dans ce souterrain qu'ils allaient faire leurs besoins. Je fus immédiatement fixé. En marbre aussi, la salle où se passait la chose. Une espèce de piscine, mais alors vidée de toute son eau, une piscine infecte, remplie seulement d'un jour filtré, mourant, qui venait finir là sur les hommes déboutonnés au milieu de leurs odeurs, et bien cramoisis à pousser leurs sales affaires devant tout le monde, avec des bruits barbares. Entre hommes, comme ça, sans façon, au rire de tous ceux qui étaient autour, accompagnés des encouragements qu'ils se donnaient comme au football. On enlevait son veston d'abord, en arrivant, comme pour effectuer un exercice de force. On se mettait en tenue, en somme, c'était le rite. Et puis bien débraillé, rotant et pire, gesticulant comme au préau des fous, il s'installait dans la caverne fécale. Les nouveaux arrivants devaient répondre à 1000 plaisanteries dégueulasses pendant qu'ils descendaient les gradins de la rue. Mais ils paraissaient tous enchantés quand même. Autant là-haut, sur le trottoir, ils se tenaient bien, les hommes, et strictement, tristement même, autant la perspective d'avoir à se vider les tripes en compagnie tumultueuse paraissait les libérer et les réjouir intimement. Les portes des cabinets, largement maculées, pendaient, arrachées à leurs gonds. On passait de l'une à l'autre cellule pour bavarder un brin. Ceux qui attendaient un siège vide fumaient des cigares lourds, en tapant sur l'épaule de l'occupant en travail, lui, obstiné, la tête crispée, enfermée dans ses mains. Beaucoup engeignaient fort, comme les blessés et les parturientes. On menaçait les constipés de tortures ingénieuses. Quand un giclement d'eau annonçait une vacance, des clameurs redoublaient autour de l'alvéole libre, dont on jouait alors souvent la possession à pile ou face. Les journaux sitôt lus, bien qu'épais comme de petits coussins, se trouvaient dissous instantanément par la meute de ces travailleurs rectaux. On discernait mal les figures à cause de la fumée. Je n'osais pas trop avancer vers eux à cause de leurs odeurs. Ce contraste était bien fait pour déconcerter un étranger. Tout ce débraillage intime, cette formidable familiarité intestinale et dans la rue, cette parfaite contrainte. J'en demeurais étourdi.
C'est le rituel des latrines publiques dans la Rome antique, quelque
oui,
peu.
Oui, oui, il dit d'ailleurs, c'est la Grèce qui recommence, mais à double titre en fait. C'est l'antiquité céleste, celle du Médée Agan, celle du rien de trop, celle des divines proportions au fond qui vaut à ces prostituées sublimes, assises en leur profond fauteuil, d'impressionner de leur beauté la rétine du miteux. Et c'est aussi cette Grèce collective, ou cette Rome collective, où on a presque plus de scrupules à manger ensemble qu'à déféquer ensemble. Ce sont les deux, mais ça rejoint au fond le thème principal de ce chapitre, de cette rencontre, de cette rencontre baroque entre le sublime et le grotesque, qui se rencontrent en permanence. Là encore, hein, ce débraillage soudain des gens et au-dessus, cette parfaite contrainte. Il est vrai d'ailleurs que dans la vie. Il n'y a pas besoin d'aller dans une caverne fécale, il suffit d'aller dans un urinoir public pour constater que les hommes, dans cet espace-là, se donnent paradoxalement le droit de faire des bruits ou d'avoir des réflexions qu'en général ils se dispensent d'avoir quand ils marchent dans la rue et qu'ils sont à cet égard plus tenus par eux-mêmes. Céline ne fait qu'insister là-dessus de façon admirable, magnifique, mais surtout la descente dans le trou, parce que c'est un trou, dans ce gouffre, dans ce jour filtré, marbré. D'abord c'est du marbre, donc on fait caca dans le marbre, toujours la même histoire, et surtout cette descente-là, elle vient juste après la surnaturelle révélation esthétique. C'est-à-dire que l'instant d'avant, il se dit « oui, c'est la Grèce qui recommence, voici une avalanche de femmes absolument belles, quelle découverte, quelle Amérique ». Et juste après, il y a ça. C'est très frappant, ce basculement de l'un vers l'autre. L'autre chose frappante, je trouve, dans la description de cette caverne, c'est le fait que, je veux dire, avant New York, on est en Afrique. Et Bardamu, en Afrique, ne répugne pas, vous vous en souvenez, Paola, nos auditeurs s'en souviennent, et les lecteurs de Céline le savent, ne répugne pas à décrire la crasse, la tiédeur, le poulpe qui macère dans une baignoire d'eau tiède. Enfin, je veux dire, il ne répugne pas à décrire la crasse, l'infamie des étuves, la gale, cette façon que le tréponème qui limaille les artères, j'ai jamais trop su ce que ça voulait dire. Enfin, il n'hésite pas à décrire tout ça. Et donc, on pourrait se dire, a priori, qu'une telle complaisance dans la description de la crasse l'ouvre, si j'ose dire, ou le rend disponible à la contemplation descriptive du caca, à la façon d'ailleurs dont Proust peut en parler, lui cette fois-ci, en faisant quasiment la métaphore de la synesthésie et en repérant un parfum étrange et pénétrant dans ses odeurs et dans le pavillon treillissé de verre où sa nounou va se soulager pendant que lui-même l'attend sur les Champs-Élysées. Eh bien, il n'y a pas d'esthétique là, chez Céline, il n'y a pas de sauvetage par la beauté. C'est ça qui est étonnant, c'est qu'il déteste ça. C'est un homme qui s'intéresse à la crasse, mais qui, si j'ose dire, vomit le caca. La défécation, ça le dégoûte. Et ça, c'est très frappant. Il fait partie de ceux qui ont si bien séparé les choses qu'ils sont étrangers à toute scatophilie, tout en jouant à merveille de leurs organes. Il ne veut pas souiller la beauté, Céline. Et j'ai tendance à penser que c'est parce qu'il est médecin. Parce que, qu'est-ce que c'est qu'un médecin ? Un médecin, c'est quelqu'un qui a du goût pour la beauté. Qui a du goût pour la beauté. Alors, certains diront comme une rédemption, puisque les médecins sont ceux qui voient, ou savent, ou entrevoient ce que nous avons sous la peau, donc qui voient des viscères et des organes là où nous voyons une police. Donc on pourrait considérer que c'est leur rédemption, en un sens, c'est leur salut. Mais je ne crois pas. Je crois que les médecins ont du goût pour la beauté parce qu'ils font la différence entre un organe et le symbole qu'il est, et le symbole qu'il signifie. Ils font la différence, par exemple, comme le dit un médecin, entre le sexe qui fait l'amour et le sexe qui accouche. C'est pas la même chose. Et c'est cette différence qui est faite, qui est profondément, je crois, médicale, c'est-à-dire esthétique, dont Bardamu fait l'expérience quand il décrit son dégoût. Il décrit son dégoût. Le phénomène physiologique de la défécation est un phénomène qui, en lui-même, bon, dont il prend acte, mais en revanche, sa sublimation collective et camarade avec ces hommes qui se tapent sur l'épaule en fumant des cigares lourds, ça, il trouve ça répugnant. L'idée qu'il y ait une complaisance là-dedans le répugne profondément. Il n'y a aucun rapport entre un médecin qui n'a pas froid aux yeux, c'est-à-dire qui dit ce qu'il voit ou qui voit ce qu'il voit, et la complaisance du type qui, justement, se tient bien à l'extérieur et se fait plaisir quand il vide ses entrailles entre bons camarades. Et le résultat de ça, c'est qu'on a vraiment la caverne de Céline, quoi. La caverne de Céline qui est une réplique en négatif ou en différemment sublime de la caverne de Platon. C'est l'inverse. C'est l'inverse. Chez Platon, la caverne, c'est l'illusion. C'est l'illusion dont le philosophe sort en substituant à la lumière de du foyer, la lumière du soleil. Donc c'est l'illusion dont le philosophe sort. Chez Céline, la caverne, c'est la vérité souterraine de ces hommes qui se tiennent bien dans la rue et qui, en réalité, vont faire caca en communauté, n'aiment rien tant que de déféquer ensemble. Donc c'est la vérité de ces individus, c'est le grand secret de ces individus, le secret à ciel ouvert dans cette caverne marbrée. Chez Platon, la sortie de la caverne consiste à voir la lumière et risquer de mourir en retournant dans la caverne pour prêcher la bonne parole. Le philosophe qui sort de la caverne de Platon et qui voit la lumière, qui voit la vérité, qu'est-ce qu'il fait ensuite? Il redescend, comme Zarathoustra descendant de sa colline, il redescend pour aller parler aux hommes et leur dire ce que vous prenez pour la vérité n'est en fait qu'une illusion. Et celui-là, dit Socrate, mais, est menacé de mort, à la façon dont Socrate lui-même sera condamné. Chez Céline, la sortie de la caverne, ce n'est pas des retrouvailles avec la vérité, c'est au contraire une façon de reprendre le fil du mensonge quotidien. C'est-à-dire le fil de ces hommes qui se tiennent tous les moments de la vie. Qu'est-ce que c'est que le mensonge quotidien pour Céline? Pardon de le dire comme ça. C'est tous les moments de la vie où un humain ne chie pas. C'est-à-dire tous les moments de la vie où c'est cette quotidienneté qu'on vient abandonner, dont on vient se délester en même temps que ses excréments dans la puanteur, le vacarme et la camaraderie. La caverne de Céline, c'est l'enfer secret de toute chose. C'est la descente aux enfers. Il décrit la crasse, mais il déteste la merde. Et dans ce décalage entre les deux, je crois que se lit justement la réplique de Bardamu, la façon qu'a Bardamu de répondre à ce défi métaphysique que lui envoie l'Amérique, en lui montrant que, s'il y a une saleté qui ne passe pas, c'est bien celle-là, et un univers ou une civilisation qui glorifie cette saleté, qui la rend publique, qui n'a pas la pudeur de la planquer, est une civilisation dont l'optimisme ne signifie pas tant la bonne santé que le déni du réel. Merci Paola, merci à tous, François Connac à la réalisation, Valérie Lavalard aujourd'hui à la technique, Alice Ramon bien sûr, notre attachée de production, votre attachée de production et collaboratrice spécialisée, et j'ai envie de dire Denis Podalydès à la lecture, même si l'honnêteté commande d'accepter que cette lecture précède de loin l'enregistrement de cette émission, puisque nous avons pioché sans vergogne dans l'enregistrement de l'intégrale du Voyage au bout de la nuit proposé par les éditions Gallimard et magnifiquement interprété, je dois dire, par Denis Podalydès, comme à peu près tout ce qu'il interprète. Vous pouvez retrouver cette émission sur Internet, à la page du Gai Savoir, où vous attendent téléchargement, écoute en ligne et bibliographie. Et on vous donne rendez-vous bien sûr dimanche prochain pour y parler cette fois-ci de Marivaux, du jeu de l'amour et du hasard, ou du jeu de l'amour et de la nécessité, tout dépend de l'interprétation qu'on donne de ce texte sublime, vertigineux et néanmoins immobile. Le jeu de l'amour et du hasard, c'est donc dimanche prochain dans le Gai Savoir. Dans l'intervalle, retrouvez les nouveaux chemins de la connaissance qui, tous les jours, de 10h à 11h, vous propose la plus inventive des philosophies grâce à Adèle Van Rett et son équipe. Retrouvez aussi Philosophie Magazine, dont je ne dirai jamais assez de bien dans cette émission, qui parle de deuil, de courage et d'amitié dans le numéro de ce mois-ci. Et je signale d'ailleurs à cet égard la parution, entre le deuil, le courage et l'amitié, d'un hors-série de Philosophie Magazine sur Astérix. Régalez-vous, c'est formidable. Heures sur France Culture. Dans un instant, l'atelier du pouvoir, Thomas Vider, Vincent Martini.